Rendez-vous d'Haïti et des Amériques, Hugo Lanoë. Bonjour Hugo.
Bonjour Edmond, bonjour à toutes et à tous. Et on continue de parler du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. L'occasion pour Donald Trump de louer les relations franco-américaines, vous l'entendrez dans un instant. Suivra un reportage à Washington auprès de trois vétérans, témoins, acteurs de cette étape clé de la libération de la France. La paix est célébrée. Pendant ce temps, la guerre commerciale, elle, se poursuit. On fait le point sur les négociations entre Américains et Mexicains dans la revue de presse. Et puis avant de retrouver l'actualité d'Haïti et des Caraïbes, on parlera de Neymar, la star du football brésilien, une nouvelle fois blessé et donc forfait pour la Copa América.
To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war and proven in the blessings of peace. Our bond is unbreakable.
À tous nos amis et partenaires, notre chère alliance a été forgée en pleine bataille. Elle a traversé les épreuves, elle a survécu à la guerre. Notre lien est indestructible. Déclaration de Donald Trump en fin de matinée au cimetière militaire américain de Colville-sur-Mer dans le Calvados, en Normandie. À ses côtés, Emmanuel Macron. Devant eux, plus de 10 000 invités, tous réunis pour rendre hommage à ces dizaines de milliers de soldats qui se sont jetés à l'eau il y a 75 ans, jour pour jour. Et cela pour libérer la France du joug du nazisme. Les cérémonies du D-Day et du jour J ont commencé ce matin et se poursuivent tout au long de la journée. Alors, Donald Trump loue l'amitié franco-américaine. Reste à savoir si l'esprit de coopération propre au 6 juin 1944 perdurera entre le président américain et son homologue français. Les deux hommes passent une partie de la journée ensemble. Une chose est sûre, 73 000 soldats américains ont participé au jour le plus long, le débarquement en Normandie ou l'opération militaire la plus importante de l'histoire récente. Quelques-uns de ces vétérans sont toujours en vie. Anne Corpé, notre correspondante à Washington, a rencontré trois anciens combattants.
Ils ont entre 92 et 101 ans, mais tous trois se souviennent parfaitement du jour du débarquement. Robert Fishman était à bord de l'USS Texas. Une image reste gravée dans sa mémoire.
Tout ce que je pouvais voir, c'était des corps morts dans l'eau. Et c'était tous des Américains. Ils étaient tous morts et cela me rendait fou.
Robert Fishman s'est illustré en ramenant des blessés jusqu'à son bateau.
J'étais à Omaha Beach et j'ai récupéré 35 Rangers blessés qui avaient tenté de grimper sur la falaise avec une corde. Mais on leur tirait dessus. J'en ai ramené 35 jusqu'au bateau où il y avait des chirurgiens. Et ce que je voulais plus que tout, c'était de tenter de trouver des gars assez en forme pour être ramenés au bateau. Ils gisaient partout sur la plage et je devais les secouer un peu pour savoir s'ils étaient en vie.
Vous saviez pourquoi vous vous battiez ?
Je me fichais complètement des raisons. Je savais qu'on nous tirait dessus, donc je ripostais. On ne prend pas le temps de se poser des questions. On agit.
La mer était très agitée.
Donald Keller, 22 ans, le jour du débarquement.
On voyait ces échelles de cordes qui descendaient le long des bateaux et par lesquelles on devait descendre et il fallait attendre que la vague soit assez haute pour sauter dans l'eau. Certains ont sauté trop tôt, de trop haut, et se sont brisés les jambes. Donc moi j'ai attendu le moment où la vague était au plus haut pour sauter et ensuite il fallait rejoindre le rivage et j'ai réussi. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ce petit point noir ?
Il nous montre un petit point noir juste sous la lèvre inférieure.
C'est un petit éclat d'obus. Tout le monde me dit de l'enlever, mais non, c'est un souvenir que je veux garder.
À 101 ans, Floyd Wakefield est le doyen de ses anciens combattants.
Il m'avait donné un nouveau fusil. Oncle Sam m'avait donné un fusil neuf la veille du D-Day. Je suis arrivé sur Utah Beach à 9h du matin et ma première impression n'a pas été très bonne.
Et vous saviez pourquoi vous étiez là ?
Oh oui, je savais tout sur Hitler, sur ce qu'il avait fait et je ne voulais pas de lui dans ce pays. Et je ne voulais pas que les Allemands me fassent prisonnier. Il aurait fallu qu'ils me tuent. J'étais si content de faire ça. J'ai fait ce que j'ai pu.
Robert, Donald et Floyd, dont tous trois étaient décorés de la Légion d'honneur, 75 ans après avoir débarqué sur les plages de Normandie. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et d'un côté, on célèbre la paix, de l'autre, la guerre commerciale se poursuit. On voit ça dans la revue de presse des Amériques avec Romain Lemaresquier. Bonjour Romain.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et à la une, Romain, les négociations à Washington entre Américains et Mexicains sur les fameuses taxes douanières que Donald Trump souhaite imposer à son voisin du Sud.
Oui, des discussions qui n'avancent pas. C'est l'avis en tout cas du président américain, repris en une du quotidien mexicain La Jornada. Mais selon ce journal, qui cite le ministre mexicain des Affaires étrangères, cette journée de mercredi s'est déroulée de manière cordiale avec l'objectif de poursuivre les discussions ce jeudi afin de rapprocher les positions des deux délégations. Marcelo Ebrard se veut confiant, rappelant qu'il ne fallait pas s'attendre à un accord à la fin de cette première journée de négociation, précise le quotidien.
Mais Donald Trump veut aller plus vite, comme il l'a encore rappelé lors des cérémonies du 75e anniversaire du débarquement.
Oui. Et oui, des déclarations qui ont le don de confondre tout le monde, même les négociateurs américains, selon La Jornada. Mais cette nuit, nous apprend l'Universal, les autorités mexicaines ont bloqué une caravane de migrants qui comptait plus de 1000 personnes dans ses rangs, parmi lesquels de nombreux enfants, une caravane qui tentait de rejoindre Tapachula, une ville située à côté de la frontière avec le Guatemala. Or, pour rappel, Donald Trump réclame aux autorités mexicaines qu'elles mettent fin à ce flux migratoire si elles ne veulent pas être sujettes à des augmentations des taxes douanières. Cette opération menée hier par les forces de l'ordre mexicaines ressemble, à s'y méprendre, à une réponse aux demandes du président américain, même si ce dernier n'a pas réagi à ce dernier développement.
Mais si les autorités mexicaines semblent suivre les recommandations de la Maison Blanche, Romain, des voix célèbres au Mexique pour critiquer l'attitude du gouvernement mexicain.
Et oui, c'est le cas notamment de José Manuel López Campos, président de la Confédération des Chambres de Commerce Nationales du Mexique. Dans une interview à Milenio, il appelle les autorités de son pays à cesser d'être l'otage et la piñata de la campagne politique menée par Donald Trump. Ces hausses de taxes sont mauvaises pour tout le monde, que ce soit pour le Mexique ou les États-Unis, explique-t-il, avant d'ajouter que le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis. Il devrait donc être traité comme un allié, surtout dans cette période de guerre commerciale avec la Chine.
La presse américaine semble sur la même longueur d'onde.
Oui, c'est le cas de USA Today qui, dans un article du jour, explique aux Américains qu'ils devront payer plus cher leurs véhicules si d'aventure ces hausses de taxes entrent en vigueur. Et au Mexique, José Manuel López Campos n'est pas le seul à critiquer l'approche du gouvernement mexicain. L'ancien président Felipe Calderón également. Dans les pages de la revue Politico, il demande à ce que le Mexique rende l'appareil aux États-Unis en haussant également les taxes douanières.
La situation humanitaire s'aggrave de jour en jour au Venezuela. Une partie de la population réclame l'aide de la Croix-Rouge. Promise, fin mars, seule une cargaison de 24 tonnes est entrée très discrètement à la mi-avril dans le pays. Depuis, plus rien, mais la Croix-Rouge sort de son silence. De nouvelles cargaisons vont être livrées dans les prochains jours. Correspondance à Caracas, Benjamin Delisle.
Avec le soulèvement militaire du 30 avril, la Croix-Rouge a dû repousser ses livraisons d'aide humanitaire. Depuis, elle négocie pour obtenir un feu vert des différents acteurs, et cela ne devrait pas tarder à aboutir, selon Luis Farias, porte-parole de la Croix-Rouge vénézuélienne.
En ce moment même, notre centre logistique au Panama a déjà une cargaison prête à être livrée. Et en plus, la Croix-Rouge italienne nous a offert une cargaison très importante, qui est aussi prête.
L'opacité autour de la distribution de l'aide déjà livrée inquiète au Venezuela, d'autant que des médicaments siglés Croix-Rouge sont revendus au marché noir. Selon Luis Farias, la distribution est discrète pour éviter toute récupération politique et l'idée d'un détournement de l'aide est tout simplement absurde.
Pour éviter ce genre de dérive, la Croix-Rouge distribue toujours uniquement les doses de médicaments nécessaires aux personnes dans le besoin. Ce sont nos médecins qui déterminent combien de jours tel patient aura besoin de tel médicament. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des rumeurs, des photos où l'on croit voir nos médicaments, mais ce ne sont pas ceux-là.
Pour l'instant, des générateurs électriques et des médicaments ont été distribués dans une dizaine d'hôpitaux. Les livraisons devraient s'échelonner sur les 12 prochains mois. Mais la Croix-Rouge rappelle que son aide ne suffira pas à sortir le Venezuela de la crise. Benjamin Delisle, Caracas RFI.
Direction Cuba à présent, où les nouvelles sanctions américaines sont entrées en vigueur ce mercredi. Hier, donc, le dernier bateau de croisière américain, Romain, a quitté l'île sous le regard attristé des Cubains.
Oui, c'est le quotidien colombien El Espectador qui revient sur le départ du bateau de croisière Empress of the Seas, qui a donc quitté le port de La Havane hier, puisque désormais les croisières, mais également les voyages en groupe d'Américains à Cuba sont interdits. Un départ qui marque la fin d'une période de rapprochement entre Américains et les Cubains, comme l'explique Mario Diaz dans les pages du quotidien. Ce jeune DJ cubain déplore le recul en matière de rapprochement entre les deux pays. Ses croisières, explique-t-il, étaient une source de revenus très importante et le manque à gagner risque d'être très important, comme le confirme El Nuevo Herald. Le quotidien américain détaille que l'annonce de ces nouvelles sanctions implique l'annulation de 800 000 réservations pour les croisiéristes et les compagnies affectées ne savent toujours pas comment s'y prendre pour soit proposer un trajet alternatif, soit rembourser leurs clients ou alors tout simplement porter l'affaire en justice.
Enfin Romain, avant de se quitter, un mot d'une affaire qui fait les gros titres au Brésil, celle qui concerne Neymar, accusé d'agression sexuelle. La star du ballon rond a annoncé qu'il ne participerait pas à la Copa América.
Oui, alors officiellement, Neymar s'est blessé au ligament de la cheville droite hier lors du dernier match de la sélection brésilienne face au Qatar avant le début de la compétition. C'est en tout cas ce qu'avance le quotidien au Globo, mais étant donné l'ampleur du scandale qui l'entoure, on est en droit de se demander si l'attaquant du PSG n'a pas préféré tout simplement faire profil bas et s'éclipser pour protéger le reste de la sélection brésilienne. Les problèmes s'enchaînent donc pour Neymar, comme le rappelle le quotidien. Déchu de son rôle de capitaine de la sélection, il fait face désormais à une plainte pour viol. La nouvelle de l'absence de Neymar à la prochaine Copa América a été rendue publique juste après la diffusion d'une interview de la femme qui l'accuse, une affaire qui fait les choux gras au Brésil.
La presse américaine passée en revue, merci Romain Lemaresquier. J'ajoute que le président péruvien Martin Vizcarra a remporté hier une large victoire dans sa lutte contre la corruption en obtenant un vote de confiance du Parlement, dominé par l'opposition, faut-il le rappeler. Le projet de réforme présenté par le gouvernement a obtenu 77 votes favorables contre 44 défavorables et 3 abstentions. Le président péruvien avait menacé de dissoudre le Parlement, dominé par l'opposition fujimoriste, la droite populiste, et d'appeler à de nouvelles élections si les parlementaires ne soutenaient pas ces réformes. Direction Haïti.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et avant de rejoindre Franz Duval du Nouvelliste, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Cosé Quilty, produit en partenariat avec l'ambassade et l'Institut français en Haïti. Ce magazine culturel en français et en créole de RFI souffle sa troisième bougie. 3 années placées sous le signe de l'énergie positive au profit de l'actualité culturelle et de celles et ceux qui font bouger Haïti. Joyeux anniversaire donc, Cosé Quilty, parlons culture en français. Programme diffusé chaque dimanche en français et en créole vers Haïti à 19h30 heure de Paris et rediffusé les lundis à 2h30 du matin. Et après avoir causé Quilty, on va causer politique et sociale avec Franz Duval du Nouvelliste. Franz, c'était la hantise de la semaine en Haïti. Va-t-il y avoir de l'essence dans les stations-service ?
Le ministère de l'économie et des finances d'Haïti a sorti un communiqué rassurant mercredi soir. Oui, il y aura des produits pétroliers dans les prochains jours. La rupture de stock est évitée avec l'importation de 250 000 barils de produits pétroliers faite par une des compagnies intervenant sur le marché haïtien. Dans ce communiqué, le ministère de l'Économie et des Finances a tenu à rassurer aussi sur les prix des produits pétroliers qui restent inchangés.
Une bonne nouvelle pour les consommateurs, l'économie haïtienne peut-elle en dire autant ?
L'État haïtien renonce à l'ensemble de ses revenus sur chaque litre d'essence vendu et en dépit de tout, fait financer une partie de la subvention du prix payé par le public par les compagnies pétrolières. Cette dette est de plus en plus insoutenable car les compagnies privées financent sans espoir de remboursement immédiat les largesses de l'État haïtien. Les prix bas des produits pétroliers à la pompe alimentent le déficit budgétaire et pèsent négativement sur la valeur de la gourde, la monnaie nationale. Si une partie de la population bénéficie des bas prix, tous les Haïtiens paient la facture du change car le dollar est la devise qui détermine tous les prix en Haïti. L'incapacité de l'État haïtien à ajuster les prix à la pompe l'oblige à alimenter une dette énorme envers les compagnies pétrolières qui contrôlent le marché haïtien.
Franz, une question. Est-ce la raison pour laquelle la Banque centrale haïtienne vend ses réserves de devises ?
Effectivement. Toujours sur le front de l'économie, la Banque de la République d'Haïti a lancé cette semaine, une nouvelle fois, un programme de vente de dollars américains pour essayer de calmer l'appétit du marché pour la devise américaine. Pour l'instant, si la valeur de la gourde ne s'est pas appréciée, on constate un ralentissement du rythme de la dépréciation de la monnaie haïtienne. D'ici à septembre 2019, la Banque centrale haïtienne compte vendre sur le marché 150 millions de dollars. L'objectif inavoué est d'empêcher au dollar américain d'atteindre la barre psychologique des 100 gouttes l'unité. Nous sommes pour l'instant à plus de 93 gouttes pour un dollar.
Sur le plan politique, cette fois, la situation est toujours difficile.
Il n'y a toujours pas un gouvernement régulièrement installé. L'étau se resserre autour du président Jovenel Moïse. Les appels à la démission se multiplient dans le sillage du second rapport de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif sur l'utilisation des fonds pétro-caribés et d'aggravation de la condition socio-économique et sécuritaire du pays. Ils sont nombreux, les hommes d'affaires, chefs de partis politiques, pétro-challengers ou simples citoyens, qui tous demandent au président Jovenel Moïse de se démettre de sa charge. Certains souhaitent un départ immédiat, d'autres prônent une sortie organisée du chef de l'État. Depuis la publication du rapport sur la gestion du fonds Pétro-Caribé, le président Jovenel Moïse, dont le nom est cité dans le rapport, ne s'est pas prononcé sur la question.
Et voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité haïtienne. Franz Duval du Nouvelliste, merci Franz et on se retrouve la semaine prochaine. Pour le moment, on reste dans les Caraïbes avec le journal de la première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Hugo.
Benoît, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale va se pencher sur la pollution des sols et de l'eau aux Antilles.
Oui, une commission exigée, enfin réclamée et obtenue notamment par les députés antillais Hélène Vainqueur-Christophe de la Guadeloupe, Josette Manin et Serge Letchimy de la Martinique. L'utilisation des tristement célèbres désormais pesticides chlordécone et autres herbicides de paraquate seront tout spécialement dans le collimateur de la commission, Lauriane Virasamy.
Contrairement à la mission d'information, la commission d'enquête peut convoquer qui elle souhaite et les personnes auditionnées sont obligées de venir sous peine de poursuite pénale. Elles témoignent sous serment. Attention donc aux faux témoignages. La commission d'enquête peut également demander n'importe quel document. Quel impact du chlordécone et du paraquate aux Antilles? Qui sont les responsables? Qu'en est-il de l'indemnisation? Voilà les pistes de travail de la commission. Le calendrier est chargé. La composition de la commission sera connue jeudi ou vendredi prochain. 30 personnes vont siéger. Elles seront désignées à la proportionnelle des groupes de l'Assemblée nationale. On sait d'ores et déjà qu'elle sera présidée par Serge Letchimy. Le rapporteur sera quelqu'un de la majorité. L'installation de la commission se fera la semaine suivante, vers le 17 juin. C'est à ce moment-là que sera décidé si les travaux seront publics et les premières auditions vont commencer avec des déplacements prévus aux Antilles. Les membres de la commission d'enquête n'auront pas beaucoup de répit pendant les grandes vacances car les choses doivent aller très vite. Les députés n'ont que 6 mois pour rendre leur rapport.
On reste en Martinique où circulent actuellement des vidéos sur lesquelles on voit des personnes brandir des armes sur la voie publique. Alors sur une vidéo, c'est une jeune femme qui brandit une arme, sur une autre, des collégiens qui marchent dans la rue avec des armes de poing. Alors dans les deux cas, il pourrait s'agir d'armes factices, mais les autorités prennent la situation très au sérieux. D'ailleurs, vous allez entendre le préfet de la Martinique, Franck Robin, au micro de Franck Zozor.
Ce sont des images qui sont particulièrement choquantes et qui, je crois, appellent vraiment à une prise de conscience collective. Il y a une délinquance en Martinique qui est grosso modo à la moyenne nationale, mais qui se caractérise par une violence qui est plus élevée que la moyenne nationale, avec notamment une utilisation d'armes qui devient de plus en plus courante. J'en ai parlé avec le directeur départemental de la sécurité publique. Les vidéos sont en cours d'exploitation. Il sera assez facile de retrouver les collégiens. Les contacts ont déjà été pris puisque nous avons de quel établissement il s'agit. Et il sera assez facile de retrouver la dame en question. Et il y aura bien évidemment des suites judiciaires qui seront données. Ce que je rappelle, c'est que l'arme, qu'elle soit factice ou qu'elle soit réelle, il est absolument interdit de la transporter sur la voie publique.
Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, Hugo, à demain.
À demain, Benoît Ferrand, très belle journée à vous également. Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est déjà fini. Pour aujourd'hui, Hélène Avril à la réalisation, merci à elle. Merci à vous de nous avoir suivis, merci également à celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette édition. Je pense à Marie Normand et Nicolas Brousse, tout comme Romain Lemaresquet. Cette édition est à retrouver sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. L'essentiel de l'actualité haïtienne, caribéenne et américaine à retrouver également sur notre application Pure Radio.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en chinois.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播国际标准时间每天22点至23点。第二节广播国际标准时间每天11点至12点。
Écoutez et retrouvez les fréquences de RFI en chinois sur cn.rfi.fr.